Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Imaginez être sur un bateau, naviguer et une fois de retour sur la terre ferme, garder cette sensation de tanguer en continu tous les jours de votre vie. C'est ce qu'on appelle le syndrome du mal du débarquement qu'a développé Tamara à l'approche de ses 30 ans. Ce handicap invisible a d'abord retardé sa maternité car elle se posait plein de questions sur la maman qu'elle allait devenir. Elle, qui était très active, ne pouvait tout d'un coup presque plus sortir de chez elle. Car oui, quand ça tangue, ça peut tanguer comme en pleine tempête pour Tamara. Mais ce trouble neurologique lui a aussi donné de la force et reconnecté à son corps. Alors pour son accouchement, elle voulait que cela se passe en maison de naissance, de la manière la plus physiologique possible. Paris réussit, mais non sans mal, avec une fracture du sacrum, histoire de corser encore un peu plus ses premiers pas dans la maternité. Alors comment elle apprivoise sa nouvelle vie de maman avec ce handicap invisible? Comment c'est devenu sa mission de rendre visibles toutes ces femmes, mères, qui souffrent au quotidien? Tamara vous raconte tout dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello Tamara!
Hello Shane!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Mais avec joie!
Trop contente de te recevoir, toi tu es toute jeune maman en plus. À quel âge ton petit baby?
C'est ça, Billy est née le 12 septembre, elle a maintenant un peu plus de 2 mois et demi.
Ouais, trop chouette. Alors on va revenir avant que tu deviennes mère, toi plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu t'es toujours dit que tu deviendrais maman un jour ou c'était pas un sujet qui t'intéressait tellement?
C'est une bonne question, je sais pas trop, je pense que vraiment intrinsèquement il y a quelque chose au niveau physique comme ça où peut-être j'ai toujours senti quelque chose dans ma chair, mais au niveau plus intellectuel je voyais pas forcément un bébé dans ma vie.
Ouais.
Où j'aimais bien, voilà, enfin l'idée c'était plutôt de faire carrière, voilà, j'avais pas forcément un homme avec qui j'étais posée, avec qui j'avais envie de faire un enfant, voilà. C'est vraiment en rencontrant mon mari actuel, donc Michael, ouais. Où vraiment au bout du, je crois, au 5e rendez-vous, je lui ai dit « Je ne sais pas si j'aurai des enfants un jour, mais ce que je sais, c'est que si j'en aurai, c'est avec toi. »
Oh.
Et ça a été vraiment l'évidence. Et voilà, c'est passé du corps à la tête, de la tête au corps. Enfin voilà, tout s'est mis en route une fois que je l'ai rencontré, lui.
Ouais. Alors toi, tu as eu un parcours un peu particulier avant de devenir mère. C'est que tu as un handicap qui s'est... déclaré entre ton adolescence et ta vie d'adulte?
Oui, c'est ça. Enfin, c'est même dans ma vie d'adulte parce que j'arrivais sur mes 29 ans. Donc, je suis tombée malade. C'est une maladie neurologique qui s'appelle le syndrome du mal de débarquement. Et en fait, après avoir été sur un bateau, je suis restée... c'est comme si mon cerveau était resté croché sur ce bateau. Donc, je tangue en permanence. Ça s'appelle comme des vertiges, mais moi, c'est vraiment la sensation de tangage permanent avec du brouillard cérébral, de la fatigue chronique, des troubles cognitifs. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une maladie neurologique. Puis, en parallèle, j'ai aussi été diagnostiqué pour une maladie intestinale qui s'appelle le SIBO, qui crée des ballonnements, des nausées, des diarrhées, des vomissements, des intolérances alimentaires, aussi de la fatigue chronique. Ah. Et j'ai été diagnostiquée hier d'une ostéoporose à l'âge de 32 ans. Et en fait, j'ai appris ça grâce à l'accouchement, parce que j'ai eu un accouchement tout physiologique, dans une baignoire, tout bien. Mais ça a créé une fracture du sacrum. Et du coup, mes médecins étaient là, mais quelque part, c'est pas normal qu'il y ait une fracture du sacrum pour un accouchement quelque part qui s'est aussi bien passé. Et on a été investigué et j'ai appris hier que j'avais de l'ostéoporose. Donc je suis un peu en train de digérer cette information.
Ouais, ok. Est-ce que la découverte de cette maladie neurologique, est-ce que ça a remis en question ta potentielle maternité avant que vous décidiez avec ton chéri de devenir parent ?
En tout cas, ça a vraiment, je pense, ça a retardé plutôt la parentalité chez nous, parce qu'il a, enfin, je suis vraiment rentrée dans un monde que je ne connaissais pas du tout, et pourtant, je travaillais avec des personnes en situation de handicap, mais le fait de le vivre soi-même, ça change complètement. Et en fait, j'ai dû complètement me réapprendre. Avec une maladie, je suis passée d'une femme très dynamique, très sociale, à beaucoup sortir, à beaucoup travailler, à tout d'un coup une personne qui arrivait quasi pas à sortir de chez elle, qui était tout le temps dans des symptômes hyper violents, et c'est toujours le cas, mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai vraiment appris à vivre avec, même si c'est toujours aussi compliqué. Et donc, il y a eu tout ce cheminement, enfin déjà avant, il y a eu la pose du diagnostic, l'acceptation, entre guillemets, hein, je pense pas que j'ai complètement accepté ce diagnostic, mais quelque part c'est ok maintenant de savoir que cette maladie est là. Et puis du coup on a dû aussi apprendre à s'équilibrer avec Michael là-dedans, parce que lui il a dû apprendre aussi à vivre avec une femme malade qui ne l'était pas avant. Donc il y a eu toute une recherche d'équilibre, aussi de soins, quels soins pouvaient parfois améliorer mon état. Et puis tout ça, évidemment, ça a créé beaucoup de peur sur quelle maman j'allais pouvoir être dans ces états-là, sachant qu'il y a des moments où je ne peux rien faire, j'ai de la difficulté à prendre une douche, où j'ai des douleurs, où je suis pas bien, enfin voilà, et un peu cette question de, voilà, quelle maman je pourrais être et quelle vie je peux aussi offrir à un enfant là-dedans. Donc il y a eu à un moment donné cette confrontation entre le désir d'être parent et la réalité qui m'était imposée à ce moment-là.
Ouais. Et alors, à quel moment vous avez décidé de vous lancer ?
Écoute, on l'a fait très cliché. Alors qu'on n'est pas spécialement traditionnel, on s'est mariés donc en juillet 2022. Et puis, on a arrêté la contraception droit derrière et je suis tombée alors enceinte directement. Et au bout de 2 mois et demi, malheureusement, j'ai fait une fausse couche.
D'accord.
Donc, une fausse couche qu'on a vraiment vécue, je dirais... alors tout le monde vit une fausse couche concrètement, mais on l'a vraiment, elle s'est vraiment matérialisée parce que on a vu donc le fœtus sortir dans la baignoire. Enfin, on l'a recueilli, on a été l'enterrer. Donc voilà, on a fait un peu tout un process là autour. C'était notre choix de l'accueillir de cette manière-là parce qu'on aurait pu choisir de faire un curetage au moment où on avait vu en fait via une échographie que le cœur ne battait plus. Et donc voilà, on a décidé plutôt que la grossesse, elle était terminée, mais en gros que le bébé vienne, sorte naturellement. Et puis voilà, on a fait tout ça, puis on s'est pas reprotégé derrière, donc on est resté sans contraception. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, et en fait je suis retombée enceinte droit derrière. Donc à chaque fois c'était un one shot. J'avoue que c'était assez inattendu, sans être complètement naïve, mais on a beaucoup de gens aussi autour de nous qui ont des difficultés à tomber enceinte, tout comme ça, et donc on n'aurait pas imaginé que ça se passe aussi rapidement. Et je pense que du coup l'entrée dans la deuxième grossesse a pas été toute évidente de par le fait que il y avait cette fausse couche qui était aussi rapprochée.
Ouais. Est-ce que ta maladie pouvait avoir une incidence sur ta grossesse ? Par exemple, la fausse couche, est-ce que tu t'es dit que c'était potentiellement lié, ou les médecins t'ont dit quelque chose, ou pas du tout ?
Oui, alors pour le coup, plutôt la maladie intestinale. D'accord. Parce qu'elle crée beaucoup de carences. Donc même si je m'alimente bien, même si je me supplémente en complément alimentaire, j'ai beaucoup de carences nutritionnelles. Et du coup, ces carences-là, par exemple une carence en iode ou en d'autres nutriments ou en acides aminés ou comme ça, peuvent créer des fausses couches. Et j'avais notamment une carence en iode à ce moment-là, donc c'est possible. Après, c'est toujours des hypothèses, mais que c'est amené ça.
D'accord. Donc la deuxième grossesse, est-ce que tu as dû faire des choses particulières du fait de ta condition ? Est-ce que tu devais être alitée ? Est-ce que tu devais avoir un suivi plus régulier de ta grossesse ?
Pas spécialement, simplement justement doser certains compléments alimentaires, ce genre de choses, pour être sûr d'apporter aussi au bébé le maximum, voilà, au travers de mon corps. Donc c'était plutôt cet aspect-là. Il n'y a pas eu d'allaitement, mais après c'était pas une grossesse toute évidente parce qu'il y a eu un moment donné où le placenta était trop bas, sachant que nous, donc le projet c'était d'accoucher en maison de naissance, donc il fallait pouvoir l'accoucher par voie basse, donc avec le placenta trop bas ça aurait été pas possible. À un moment donné on nous a dit que le bébé était trop petit, qu'il sortait des normes en termes de poids et de taille. Donc, et puis moi au niveau moral j'étais pas particulièrement au beau fixe. Il y avait beaucoup d'anxiété justement liée à la fausse couche précédente. Ouais. Et au fait de moi-même être malade et de pas savoir... c'était un peu difficile pour moi et conceptuel la grossesse de ne pas savoir dans quel état était mon bébé. Surtout qu'on n'avait pas forcément des nouvelles toujours réjouissantes aux échographies. Et je me rends compte que je suis beaucoup plus apaisée depuis qu'elle est là que quand elle était dans mon ventre.
Ouais. Et t'avais des symptômes, parce que alors déjà quand on est enceinte sans maladie, on a des pertes d'équilibre, c'est déjà un peu compliqué. Est-ce que toi ça a renforcé tes symptômes ou au contraire t'as trouvé un équilibre différent?
Alors je dirais que ça a rien changé au niveau des symptômes, c'est-à-dire qu'il y a eu des jours où c'était l'horreur et des jours où c'était plus tranquille entre guillemets. Mais par contre j'ai eu vraiment les trois premiers mois ces nausées mais infernales. Et faut dire que moi je suis vraiment quelqu'un d'hyper gourmande, j'adore cuisiner, j'adore manger, et là mais c'était, on me parlait d'un aliment et j'avais envie de sauter à la gorge de la personne tellement ça me donnait envie de vomir. Et ça c'était vraiment dur, ce côté où je me forçais à prendre chaque cuillerée de nourriture, et j'avais vraiment un dégoût, c'était vraiment, c'est ça qui était assez significatif, c'était le dégoût de la nourriture, et j'avais jamais connu ça avant, parce que même en ayant des nausées et des vomissements avec les deux maladies que j'avais jamais eu un dégoût de la nourriture. C'était pas la même chose.
Et tes symptômes du coup n'étaient pas renforcés plus que ça?
Non, ça a pas bougé.
D'accord. Ok. Et alors ce projet de naissance, tu peux nous en parler un petit peu? Quelle était l'idée du projet?
Alors avec plaisir, ouais, l'idée c'était vraiment donc d'accoucher en maison de naissance à Genève, dans une maison de naissance qui s'appelle la Roseraie, avec un suivi de sage-femme. Et puis l'idée c'était d'accoucher en milieu aquatique, je suis quelqu'un qui adore l'eau, et là-bas sur place ils ont des énormes baignoires où il est possible d'accoucher si tout se passe bien. Donc ça c'était vraiment le projet, et je m'étais dit bah justement la chance que j'ai dans ma malchance avec tout ce qui est symptômes et douleurs, c'est que quelque part j'ai l'habitude de traverser des choses qui sont difficiles, et je me suis dit bah l'accouchement ça va être quelque chose de ponctuel, donc je peux le traverser étant donné que je traverse d'autres choses qui sont chroniques et qui peut-être seront là jusqu'à la fin de ma vie. Donc je me suis dit quelque part je sens cette force et cet aplomb chez moi de pouvoir accoucher sans péridurale, et puis voilà, dans l'eau et donc voilà. Et puis c'était vraiment cette idée aussi de pouvoir être accompagnée vraiment par Mickaël, sa présence, ses mots, son soutien, mais tout en voilà, je savais que j'aurais besoin d'être dans ma bulle au moment venu et qu'on me parle pas trop, et que je puisse vraiment traverser les douleurs avec les respirations et tout ça.
Et t'as fait toute une préparation pour ça?
Ouais, alors la préparation, elle s'est faite en maison de naissance. On a eu 10 heures de cours, les deux, ce qui nous a énormément aidé et permis de connecter à cette expérience, parce qu'au final, moi, j'y connaissais pas grand-chose, hein, à l'accouchement, à la maternité, enfin, à ces sujets-là. Donc, on a été vraiment bien aiguillés et ça a permis d'encore plus renforcer cette envie.
Et alors, comment s'est passé le jour J?
Alors le jour J, donc c'était le jour du terme, elle n'a pas voulu arriver. Donc le 30 août, jour du terme, et on était ensuite à J+13 et elle n'était toujours pas là.
13? Ils t'ont laissé jusqu'à J+13?
Oui, alors en Suisse, ils nous laissent jusqu'à J+15.
Ok.
Voilà, et du coup, on commençait un peu à stresser, évidemment, parce qu'à J+15, l'hôpital allait nous appeler pour déclencher le bébé avec de l'ocytocine.
Ouais.
L'ocytocine, c'est ça? Tout d'un coup, j'ai un doute sur l'hormone.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça. Et du coup, donc à J+13, on dit à la sage-femme, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant pour que ça se passe pas à l'hôpital? Et elle nous a donné un de ces merveilleux cocktails qui est donc de l'huile de ricin, champagne et nectar d'abricot.
Ok.
Elle nous a dit clairement, le champagne et le nectar d'abricot, c'est pour faire genre, hein, c'est pour te déstresser et pour que tu kiffes et que ce soit bon. En gros, c'est que l'huile de ricin qui fait effet. Donc elle m'a dit, tu prends ça et 6 heures plus tard, tu auras tes premières contractions. Donc je l'ai regardée et j'ai dit, si j'ai le droit au champagne, j'ai le droit au sushi. Mais tu vois clairement, à J+13, c'est bon quoi, lâche-toi. Donc là, j'ai dit à Mickaël, ce soir, on était lundi soir, ce soir, c'est l'amour est dans le pré, sushi et champagne. Et on envoie du lourd. Et bah, ça n'a pas manqué, j'ai bu ce jus. Et 3-4 heures plus tard, j'ai eu des contractions, mais au sommet.
Ah ouais.
Et en fait, c'était assez perturbant parce que si tu veux, justement, dans ces cours de préparation à l'accouchement, on nous a énormément briefé sur le fait de pas appeler trop vite la maison de naissance.
Oui.
Dans cette idée que ça met des heures à venir, surtout chez un premier, et que elles vont pas pouvoir faire plus de choses là-bas que chez nous. Mmh. Où on est dans un cocon, en sécurité et tout ça. Sauf que moi, j'ai vraiment senti que j'étais à mon max.
Ouais.
À mon max de la contraction. Je me suis réveillée d'un coup comme ça. Et donc, Mickaël appelle une première fois la maison de naissance au bout de, je crois, 20 minutes des contractions. Puis évidemment, la sage-femme, elle dit « Ouais, mais c'est un peu tôt, quoi. 20 minutes, la première contraction. Là, on va rien pouvoir faire. Mmh. » Donc je fais un bain, j'essaye de me soulager, mais je contracte déjà toutes les 30 secondes. Et c'est l'horreur. Mmh. Je sors du bain, j'arrive plus à marcher, enfin voilà, et je sais que j'ai une grande capacité à la douleur, donc je me dis non mais là il faut qu'il rappelle absolument. Et puis il rappelle, et puis la sage-femme dit bon bah écoutez, venez quoi, enfin si c'est pas possible autrement.
Ouais.
Et puis là je dis à Mickaël, bah moi en fait je me sens pas d'y aller et que ce soit toi qui conduise. J'ai vraiment besoin que toi tu sois à côté de moi et que je puisse te serrer le bras en y allant. Et donc, on a appelé mon père, il était 4 heures du matin, il était dans son camping-car au bord d'une rivière à 15 minutes de là. Et puis, on lui a dit, bon, bah, de venir nous amener à la maison de naissance. Et puis, il arrive dans notre appartement un peu plus tard, et puis, il arrive vraiment en trombe. Alors, comment ça se passe ici? Il paraît que ça commence à contracter, olé olé et tout. Et là, je le regarde en mode, non, non, mais en fait, là, ça va pas le faire. C'est pas la teuf. Vraiment, et Mickaël, il était vraiment là, mais chut, vraiment. Et j'étais tellement au plus mal.
Ouais.
Et lui, il était en mode, c'est la fête.
Ouais, pomper la pièce.
Et donc, ouais, c'est ça. Et puis, vraiment trop chou, il nous a amenés. Et là, tout d'un coup, c'était le taximan. Il a rien dit, nous, on était derrière, il nous a déposés. Il a vu qu'il pouvait pas faire autrement. Et puis, on arrive à la maison de naissance et puis là donc on me pose le monitoring, on regarde et puis je dis là t'as 2/10 donc pas grand chose en vrai.
Mmh.
Donc on est toujours dans cette croyance de ça va pas arriver tout de suite. Et puis en fait là elle me met dans la baignoire et puis je crois que c'était ouais 2-3 heures max plus tard Billy est arrivé.
Mmh.
Donc ça a été quand même très rapide, entre la première contraction et son arrivée, il y a eu seulement 6 heures.
Okay.
Donc j'ai accouché en 6 heures, donc pour un premier. Donc on se dit vraiment que ce cocktail a été d'une efficacité sans nom.
Notez la recette, toute. Et alors comment t'as vécu cet accouchement sans péridurale, totalement physiologique, dans cet espace aquatique comme tu le désirais? C'était fou.
Ouais, c'était fou. Évidemment, c'était dur, je le cache pas. J'ai vraiment souffert. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je me suis même dit à un moment donné, si tout d'un coup j'avais envie d'un transfert à l'hôpital, ce serait même pas possible tellement j'ai mal, en fait. J'ai tellement mal que j'aurais même pas pu sortir de la baignoire et bouger et ouais. Me faire transférer. C'était inenvisageable. Donc vraiment, la douleur était immense, mais je connectais vraiment à ces ressources. J'avais fait aussi pendant la grossesse 11 jours de retraite dans le silence, une retraite qui s'appelle Vipassana, où vraiment l'idée c'est de nommer tout ce qui traverse son corps sans interpréter quoi que ce soit, sans désir, sans aversion, sans partir dans des hypothèses ou des interprétations. Puis j'ai essayé de vraiment faire ça pendant l'accouchement, de me dire ok, là j'ai telle douleur à tel endroit, je sens ci à tel endroit, mais ne pas me raconter d'histoire là autour, mais juste nommer ce qui se passait et de respirer. Et c'était horrible, mais c'est quand même passé, quoi. Et ça s'est fait. Et Mickaël a été merveilleux. Il était vraiment dans cette posture de pas trop dire, de pas non plus trop soutenir en mode méga coach, ça aurait pas passé. Et vraiment simplement de, et ça c'est ce qui nous avait été conseillé pendant la préparation à l'accouchement, de dire bah voilà, c'est bien, bravo, continue, le bébé arrive. Je dis le bébé parce qu'on savait pas à ce moment-là le sexe.
Ah.
C'est vraiment Donc voilà, vraiment ce soutien-là. Et puis, il y avait quand même un calme qui était quand même très agréable. La sage-femme n'intervenait pas trop. Elle regardait avec un miroir sous l'eau, en fait, la progression, la tête du bébé. Et puis, ouais, je me sentais quand même en sécurité malgré toute la douleur. Et puis après, voilà, il y a ce moment de contraction et poussée qui est genre terrible et où on sent vraiment le bébé descendre. Et après, bouf, tout ce petit corps qui passe. Et là, moi, j'existe plus, hein, je comprends plus rien. Donc, les sages-femmes qui essayent de faire sortir le bébé. Et puis voilà. Et puis là, c'est un moment de flou pour moi. Mais je sais qu'elles me l'ont quand même très vite mis dans les bras. Et puis, j'ai tout de suite demandé, ma première question, c'était est-ce qu'il va bien? Voilà, j'avais besoin de me rassurer sur juste sa santé à l'instant T. Et puis, elles m'ont tout de suite dit il va très bien. Et puis. Et voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions à ce moment-là en l'ayant dans les bras. Puis au bout de quelques minutes, j'ai dit, mais c'est quoi comme sexe? Et puis, elles m'ont dit, bah regarde. Et j'ai dit, oh, un garçon! Parce que j'étais persuadée que c'était un garçon toute la grossesse. Et puis, elle dit, mais non, mais regarde plus bas. Ah, une fille! En fait, je regardais le cordon ombilical. Donc, vraiment shootée. Et puis là, elles l'ont vite mis en peau à peau avec Michael. Elles ont coupé le cordon, elles l'ont mis en peau à peau avec Michael parce que lui ne voulait pas couper le cordon. Et puis, et moi, j'ai dû très vite sortir parce qu'en fait, j'ai fait une hémorragie. J'ai perdu le double de sang que la norme. Ah. Et fallait ensuite sortir le placenta. Et puis, en sortant aussi le placenta, j'étais très grise. Elles m'ont dit « c'est pas OK ». Donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'elles m'ont envoyé de l'ocytocine. Et ça a fait sortir des énormes caillots de sang, mais de la taille de betterave. Et là, j'ai repris mes couleurs droit derrière. Et en fait, voilà, il y avait des caillots qui étaient coincés. Et puis ensuite, ça s'est tout bien passé. Elles m'ont recousu, et ce qui a été très beau, parce que j'ai eu une déchirure type 2. Et ce qui était super beau, c'est que pendant qu'elles me recousaient, Billy prenait sa première tétée. Donc en fait, il y avait vraiment cet aspect où je sentais pas que je me faisais opérer. J'étais dans ce moment magique. Donc j'ai trouvé ça très beau qu'elles allient les deux quelque part au même moment.
Mmh. Et est-ce que tu as eu des symptômes de ta maladie pendant tout cet accouchement, pendant les contractions? Est-ce que c'était quelque chose à gérer en plus ou c'était complètement effacé?
Non, alors c'était pas quelque chose à gérer en plus. Les douleurs étaient beaucoup trop fortes. Ouais, c'est trop. En fait, ça prend le dessus.
Et est-ce que t'as senti la fracture du sacrum quand t'as accouché? T'as eu une douleur? T'as eu quelque chose ou c'est venu après?
Bah, en fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai eu plus l'impression d'accoucher par derrière que par devant. Et du coup, est-ce que c'est ça, cette sensation-là? Je sais pas. Mais voilà, c'est ça qui en sort. Après, j'ai été pendant 3-4 jours sous antidouleur et anti-inflammatoire, donc j'avais mal. J'avais de la difficulté à me doucher, à m'habiller, je compensais. Mais pour moi, c'était les suites d'un accouchement. Je pensais que c'était tout à fait normal, quelque part. Ouais. En fait, c'est en rentrant chez moi, au fur et à mesure, parce que je posais le pied par terre, mais je me rendais compte que j'avais vraiment mal. Et à un moment donné, j'arrivais plus à poser le pied. Et là, j'ai une sage-femme, enfin, voilà, vraiment super, qui a commencé à investiguer, gynécologue aussi. On a fait un IRM. Et puis, c'est là où on a vu qu'il y avait une fracture. Et la médecin qui m'a fait l'IRM est venue tout de suite vers moi et elle a dit mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, vous êtes tombée pendant l'accouchement ou comme ça ou avant ou après? Je dis non, pas du tout. Elle dit parce que c'est du jamais vu, en fait.
Ah ouais?
Ouais.
Et alors, il faut faire quoi dans ces cas-là? Ça se reforme tout seul ou tu dois être opérée?
Ouais, la fracture, c'est vraiment non, c'est l'immobilisation. Donc voilà, c'était pas terrible pour moi qui ai vraiment toujours besoin d'avoir un corps assez en mouvement avec des douleurs qui se cristallisent vite. Donc après, j'ai eu d'autres douleurs qui se sont mises dans les lombaires. Enfin, c'était assez compliqué d'être dans ce non-mouvement. Et ce qui a été super rude aussi, c'est que je me suis retrouvée en chaise roulante alors que j'avais un nourrisson.
Ouais.
Donc là, ça faisait beaucoup de choses avec lesquelles composer. Il y avait 3 maladies, un fauteuil roulant, un nourrisson. Et j'étais là genre... Faut quand même que la vie, elle soit des fois un peu plus douce.
Ouais, c'est clair. Et ça a pris combien de temps alors pour que t'ailles mieux?
Bah là, ça va mieux depuis, je dirais, 2-3 semaines. J'ai eu de l'aide aussi, notamment des parents de Mickaël qui sont venus m'aider pendant 3 jours, tout dernièrement, et mon père pendant 10 jours qui est revenu du Portugal parce que j'avais tellement mal à un moment donné que je l'ai appelé en pleurs en lui disant « mais en fait, j'ai besoin que tu viennes ». Et il est venu, et d'avoir eu ce soutien-là, ça m'a permis de faire des exercices, moi, de mon côté, plusieurs fois par jour pour un peu améliorer les douleurs et d'avoir du soutien. Et puis depuis, ça va mieux,
ouais.
Avec aussi de l'ostéopathie, de la physiothérapie, ce genre de choses.
Oui, parce qu'en fait, rapidement, j'imagine que Mickaël a dû retourner bosser, donc tu devais gérer toute seule la journée, avec en plus en fauteuil roulant.
Ouais, c'est ça. Et vraiment, on voit que le monde n'est pas pensé pour les fauteuils roulants. Moi, je suis engagée pour les maladies invisibles, mais je pense qu'on peut être tout autant engagée pour les maladies visibles, parce que rien n'est fait pour ça. Et je me suis rendu compte des limitations des personnes en chaise roulante, autant sur l'extérieur que chez soi, en fait. On peut même juste pas aller prendre un verre dans l'armoire, ou se déplacer pour aller aux toilettes, faire le transfert. Enfin, c'est hyper compliqué. Et puis ça, avec un bébé, que je pouvais même pas porter en porte bébé parce que j'avais trop mal au dos, donc c'est mission impossible.
Ouais. Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman, en dehors de toutes ces péripéties supplémentaires ?
Ouais, il y a vraiment comme une évidence qui s'est installée avec elle très très vite. Ouais, une confiance, une bienveillance, enfin, ouais, pour moi, sa présence, elle est normale, c'est comme si elle avait un peu été toujours là. Mickaël a ressenti ça plus encore avant moi, mais moi, c'est quelque chose que je ressens très fort aussi maintenant. Et ouais, c'est beau, cette maternité, et j'aurais pas forcément pensé ça à ce point-là. Si tu veux, j'avais, même en ayant envie d'un enfant, j'avais beaucoup de peur, et j'ai aussi vu beaucoup de témoignages. Ça peut être sur la dépression, sur le fait de pas se sentir tout de suite attachée à son enfant, ce genre de choses. Puis, quelque part, j'avais des craintes que ça puisse m'arriver aussi. Donc, je suis plutôt étonnée en très très bien sur la relation qu'on a créée, elle et moi. Après, il y a eu des difficultés, justement, avec toutes ces choses post-accouchement, et encore maintenant, hein, comme je te dis, avec ce diagnostic d'ostéoporose ou comme ça, où ça a quand même un impact sur ma santé mentale quelque part.
Ben oui,
et avec des moments de déprime, de j'en peux plus, d'injustice. Et forcément, ces moments, il y a des phases où ça m'éloigne d'elle aussi, parce que du coup, je suis focalisée sur ce qui se passe pour moi, ces difficultés, ce ras-le-bol, et ça peut créer une sorte d'éloignement. Et en même temps, en parallèle, il y a quand même une relation qui est très très forte, et je suis vraiment surprise en bien de voir tout le plaisir que j'ai à créer avec elle, à jouer. Moi, je pensais que j'allais m'ennuyer au possible à jouer avec un bébé. Vraiment, j'étais là, mais c'est stimulation intellectuelle zéro. Et en fait, j'adore, et je suis trop étonnée de ça. Donc en fait, c'est vraiment des belles surprises.
Et comment tu t'organises au quotidien ? Tu disais avant de prendre la décision de devenir mère que tu avais des appréhensions justement à ta faculté, entre guillemets, à pouvoir gérer avec en plus ta maladie. Comment ça s'organise pour toi au quotidien ?
Franchement, c'est chaud. C'est beaucoup de logistique et d'anticipation. Là, typiquement, j'ai fait appel aussi à une association qui s'appelle Super Maman, où c'est des bénévoles qui nous livrent des repas à domicile. Donc voilà, on est beaucoup dans l'anticipation. Et ça, déjà avant l'arrivée de Billy, par exemple, je faisais, quand j'avais un peu plus d'énergie et moins de symptômes, je faisais des repas en quantité phénoménale pour pouvoir congeler pour les journées un peu plus difficiles et pouvoir sortir du congélateur. Voilà, on a besoin quand même d'une aide au ménage, ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup besoin d'aide extérieure, en fait. Et ça, c'est, je dirais, une des difficultés pour moi, qui suis quelqu'un de très indépendante, de sentir qu'il y a un besoin d'autrui à ce point-là. Heureusement, Mickaël est un homme absolument extraordinaire, avec qui les tâches sont complètement égales, qui cuisine, qui fait le ménage, qui est très présent pour Billy. Donc voilà, mais je me dis toujours, c'est une chance inouïe, en fait, d'avoir un partenaire aussi présent dans cette situation de maladie et de parentalité. Mais voilà, c'est un peu... c'est de nouveau, c'est un peu toujours trouver un équilibre. J'ai justement besoin de faire beaucoup de sport pour stabiliser les symptômes et tout ça. Donc, quand on a un nourrisson, c'est pas évident, toi-même, tu sais, ouais. de pouvoir aller faire du sport ou ce genre de truc, d'avoir des temps pour soi. Donc, c'est à chaque fois demander à Mickaël, est-ce que là, t'es OK que je me fasse 30 minutes de session? Est-ce que t'es OK de rester seule avec elle là pour l'instant? Ou toi aussi, t'as un truc à faire parce que lui, il est indépendant. Donc, c'est un peu ce côté où, des fois, il est plus présent à la maison, mais il travaille. Et donc, moi, je le vois à la maison. Donc, je me dis, OK, cool, il va pouvoir s'occuper de Billy à ce moment-là. Mais en fait, lui, il est en train de d'écrire des mails pour le boulot. Ouais. Enfin, c'est beaucoup de réajustements. Et heureusement, on communique énormément, mais on doit souvent, justement, se repositionner sur nos besoins à chacun. Et qu'est-ce qui est OK, pas OK pour l'autre. Voilà.
Parce que toi, tes symptômes, c'est en continu ou c'est des symptômes qui débarquent à des moments où tu peux les appréhender un petit peu?
Alors, ils sont en continu. Par contre, ils sont plus ou moins forts. Ce que j'explique souvent, qui est assez explicite pour des personnes qui n'ont pas ça, c'est que je suis soit en basse, moyenne ou haute mer en termes de sensation de tangage. Donc, quand je suis en basse mer, évidemment, il y a plus de choses possibles qui sont possibles et imaginables. Quand je suis en haute mer, c'est la catastrophe. Faut imaginer, par exemple, faire à manger dans une cabine de bateau avec un bateau qui est en haute mer et il y a tout qui tangue. Donc, tout devient compliqué. Même aller aux toilettes, enfin, tout devient compliqué à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est impossible à faire, mais c'est très dur. Et donc, ça change sans cesse au fil des jours, au fil des heures, au fil des saisons. Voilà.
Et tu sais, quand la tempête arrive, par exemple, si t'as ta fille dans les bras, est-ce que ça peut être un danger potentiel ou tu sais quand la tempête arrive?
Alors, c'est pas forcément un danger potentiel parce que je sais maintenant, j'ai appris à vivre avec ça, réussi à trouver l'équilibre. Donc, c'est affreux à vivre, mais c'est pas forcément un danger pour l'extérieur. Par contre, j'ai aménagé des choses un peu style ergothérapie. Donc, par exemple, au lieu de la changer sur sa table de change, j'ai cette desserte que je peux prendre un peu partout sur roulette dans la maison, et comme ça je peux la changer sur le canapé plutôt qu'être debout où c'est un peu difficile avec la sensation de tangage, donc je peux le faire assise. Donc il y a des choses comme ça qu'on aménage pour que ce soit plus simple.
Et tu les vois arriver, les tempêtes? Enfin, comment ça se passe concrètement?
Non, je les vois pas arriver, sauf c'est dans l'autre sens. Par exemple, je vois arriver les changements de température. Une semaine avant, par exemple, avant que la neige tombe à 1000 mètres ou ce genre de choses, je commence à tanguer de l'horreur. Et donc je dis, là, il va y avoir un gros changement en termes de météo. Après, je sais que si je dors pas bien, ça va être terrible. Si je mange des choses qui conviennent pas à mon régime alimentaire, ça va être terrible. Enfin, il y a des choses qui permettent d'appréhender comment ça va être. Et puis, des fois, il y a rien qui appréhende ça et c'est quand même l'horreur. Et on sait pas pourquoi.
D'accord. Ok. Et ça t'est déjà arrivé d'allaiter et d'avoir les symptômes en même temps?
Ouais, bien sûr, ouais, tout le temps.
Tout le temps, ouais. Comment tu gères dans ces cas-là?
J'accueille. Ouais, j'accueille.
Ouais. Parce que ça fait pas si longtemps que tu... Enfin, même si pour toi, ça doit te paraître, j'imagine, une éternité, mais que tu as cette maladie, finalement. Et là, maintenant, c'est tout récent aussi, tu découvres la maternité. Donc, les deux ensemble, ça doit être assez intense.
Ouais, c'est vraiment intense, mais quelque part, ce que je trouve assez beau, c'est que Billy me donne vraiment un élan de vie immense. Et donc, même si c'est tout aussi intense, il y a quelque chose... Ouais, il y a une vibration, j'ai pas envie de passer pour une personne trop perchée en disant ça, mais il y a vraiment une énergie qu'elle me transmet, qui est hyper belle. Je le vois comme un élan de vie. C'est-à-dire que, ouais, ça a beau être horrible, je la regarde et je connecte à son sourire et je suis là genre, mais waouh quoi. Enfin, je suis quand même à la bonne place et c'est merveilleux de la regarder. Et en fait, elle me ramène tellement à l'instant présent. C'est ça qui est merveilleux avec ses bébés et ses enfants, c'est que c'est l'instant présent. Et du coup, je pars pas trop en cacahuète dans ma tête, parce que c'est souvent ça qui est dur. Quand les symptômes sont trop durs, et on part complètement en cacahuète.
Ouais.
On est là, mais j'en peux plus, mais comment je vais faire pour vivre avec ça? Enfin, ça amène beaucoup d'anxiété et de déprime. Et elle enlève un peu cette part-là.
Et t'as un traitement pour ça ? Est-ce qu'il est possible que ça s'en aille comme c'est venu ou pas du tout ?
Alors, il n'y a aucun traitement qui a fonctionné chez moi. J'ai fait de la physiothérapie vestibulaire, j'ai tenté les antidépresseurs, enfin plein de choses différentes. Il n'y a rien qui a agi, mais par contre, je fais une méthode à quelques kilomètres de chez moi qui s'appelle la méthode Kerton qui agit sur le système nerveux. Mais c'est une méthode qui dure 4 ans. Et c'est pour vraiment renforcer le système nerveux. Et du coup, ça peut, à long terme, m'amener des améliorations. Mais là, j'ai dû faire un stop avec la grossesse et puis avec tout simplement le postpartum. Et je me réjouis vraiment de reprendre ça une fois que Billy va commencer la crèche, donc d'ici 2 mois et demi. Et voilà, à voir si à terme, ça peut amener des améliorations.
Ouais. Est-ce que tu sais si c'est héréditaire ou pas ?
Pas vraiment. Il n'y a pas d'étude qui a été faite à ce sujet-là. Et en même temps, on sait que la quasi-totalité des maladies aujourd'hui sont quand même héréditaires ou en tout cas peuvent se transmettre dans les gènes. Donc voilà, je ne sais pas. Des fois, je me dis, mais elle... Ouais, parce qu'en fait, une des particularités quand même de ce syndrome à dire, c'est que oui, il est continu, mais le seul moment où les symptômes s'arrêtent, c'est quand je suis propulsée dans un mouvement vers l'avant. Par exemple, en voiture, en train, à vélo.
Ah, d'accord.
Et puis des fois, voilà, c'est sa petite caractéristique. Et des fois, quand Billy est pas bien et qu'on la met dans le mouvement et qu'elle se calme, on se dit, mais est-ce qu'elle a le mal de débarquement, elle aussi ? Alors qu'au final, il y a plein d'enfants qui se calment quand ils sont dans le mouvement. Mais évidemment, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle.
Oui, tu m'étonnes. Et est-ce que tu as rencontré d'autres femmes ou d'autres mères qui ont le même syndrome que toi ?
Ouais, j'en ai rencontré notamment grâce au forum, grâce à mon compte Instagram. Enfin, il y a vraiment ce côté où c'est des petites communautés qui se créent et puis où on peut vraiment échanger là autour. Mm.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné justement envie de créer un compte sur le handicap invisible, les handicaps invisibles d'ailleurs ?
Alors, je dirais que la source toute première, c'est que je suis passée à « Ça commence aujourd'hui » sur les maladies rares. Je crois que c'était ça le sujet, j'ai même un doute, mais je crois que c'était maladies rares.
Ouais.
Et puis, en fait, on était 3 témoignants. Les 2 autres témoignants avaient des maladies rares qui se voyaient physiquement. Et puis, moi, pas. Et l'émission a du coup beaucoup plus porté sur leur témoignage à eux que sur le mien. Mmh. En fait, je suis ressortie en me disant, c'est fou, on est dans une société où on va toujours plus apporter de crédit aux choses qui se voient en fait de l'extérieur. Et partant de ce postulat-là, je me suis dit, mais en fait, je suis pas très OK avec cette idée-là. Donc... Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui portent des handicaps invisibles et j'ai du coup envie de pouvoir créer un podcast là-dessus et donner la parole à ces gens parce qu'au final, c'est notre parole, elle est pas du tout portée dans notre société et qu'on est souvent sujet à des préjugés ou des clichés ou de voilà, on nous dit souvent mais t'as pas l'air malade ou mais t'es trop jeune pour être malade et en fait, ça crée une double difficulté, il y a un peu à la fois faut composer avec la maladie et les symptômes et aussi avec le fait qu'on est remis en question, qu'on n'est pas cru dans ce qu'on vit et je trouve que ça apporte une double peine entre guillemets. Donc c'est parti de là. Donc j'étais dans le train du retour de Paris pour Genève et j'ai dit à Mickaël, mais j'ai envie de créer un podcast. Et puis en fait lui il est dans le monde de la musique et du son et il m'a dit mais c'est parti quoi, on fait ça ensemble, on monte ça ensemble. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis j'ai très très vite eu des témoignants et c'est pas difficile à en trouver parce que en faisant un peu des recherches statistiques j'ai vu qu'en Suisse et en France on est quasi 40% des personnes adultes à vivre avec des maladie chronique.
C'est énorme.
C'est énorme. Mmh. Et 80% de ces maladies chroniques sont des maladies invisibles. Donc évidemment, plus ou moins handicapantes. Il y a des choses qui se ressentent beaucoup moins que d'autres, mais il n'empêche qu'on est quand même beaucoup de concernés.
Ouais. Et toi, tu as dû arrêter de bosser d'ailleurs à cause de ton handicap ?
Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai dû arrêter de bosser en tant qu'éducatrice spécialisée et ça a été le plus grand des deuils que j'ai traversé. J'ai mis plus de 2 ans pour accepter ça, sachant que j'étais dans un boulot que j'adorais, avec des super collègues, une superbe ambiance, des bénéficiaires incroyables à accompagner. Et ça a été vraiment dur parce que pour moi, le travail, ça a toujours été... peut-être un des domaines, je dirais, les plus importants de ma vie, vraiment. Mmh. Et avec des parents aussi qui ont toujours beaucoup, enfin, qui ont toujours travaillé à 100%, qui étaient très investis dans leur boulot. Donc, pour moi, il y avait aussi au niveau de l'éducation que j'avais reçue quelque chose qui était très ancré là-dedans.
Alors maintenant, t'as ton podcast, donc ça, c'est chouette parce que ça fait ton projet à toi. Est-ce que t'as d'autres projets par rapport au handicap invisible ou à ta carrière professionnelle? Est-ce qu'il y a des options qui s'ouvrent à toi ou non?
Alors du coup, bah, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi je la vois ». Donc c'est un livre pour les enfants, mais qui au final accompagne aussi souvent les grands, il semblerait, pour que les parents puissent nommer aux enfants les différents états qu'ils peuvent traverser en vivant avec une maladie, et quelque part, qu'importe laquelle, que ce soit un trouble borderline, une dépression, une sclérose en plaques, enfin voilà, ça peut être vraiment très très varié. Et du coup, donc il y a déjà eu ce premier livre qui pour moi était hyper important à écrire sous deux regards. Il y avait le regard à la fois de la petite fille que j'ai été, parce que j'ai vécu avec une maman malade, et j'aurais voulu à cette époque-là avoir des outils pour pouvoir nommer et traverser ça. Et j'étais au final que dans des émotions que avec qui je pouvais en parler à personne, et voilà, qui étaient au final hyper masquées et que j'ai gardées pour moi.
C'était la même maladie que toi?
Non, pas du tout. C'est un trouble psy.
D'accord.
Et donc voilà, donc il y avait ce besoin-là d'écrire en tant que la petite fille, et il y avait le besoin d'écrire en tant que la future mère, parce qu'à ce moment-là, Billy n'était pas encore conçue. Et vraiment cette idée de me dire, mais en fait, si je fais des enfants, j'ai envie de pouvoir leur apporter cet outil et de surtout pas leur cacher quelque chose qu'ils vont remarquer au final, parce que c'est des êtres d'une sensibilité immense. Donc voilà, il y a eu ce livre qui est sorti avec l'atelier La Belle Étoile comme maison d'édition, qui ont fait les petits illustrés de l'intimité. J'ai écrit un deuxième livre qui sera en cours d'illustration prochainement, sur un enfant du coup qui vit avec une maladie invisible. Okay. Et puis à côté de ça, bah, on a créé une association sur les maladies invisibles, où il y aura tous mes podcasts et la possibilité d'avoir des groupes de parole, différentes ressources de professionnels. Enfin voilà, vraiment quelque chose où on peut retrouver des outils et des solutions en tant que malade chronique et invisible. Donc ça va paraître au mois de janvier 2024.
Oh, elle s'appelle comment cette association?
Bah, les invisibles, sans surprise.
Ouais, donc maintenant, c'est devenu un peu ta mission de vie d'aider et de faire en sorte d'être plus visible, justement, dans la société.
Oui, parce que cette visibilité, elle peut apporter beaucoup de choses sur tellement d'aspects, et notamment le domaine professionnel, où les gens, souvent, voilà, s'ils se plaignent de migraines ou d'autres douleurs ou de problématiques, on va souvent dire « mais cette personne, elle exagère ». Enfin... Il y a peu de compréhension au final et peu d'aménagement pour les personnes malades, et je pense que c'est important que la société, elle s'adapte aussi de plus en plus, et que ça devienne une société plus inclusive.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Ouh, c'est une question vaste. Je vais commencer par te dire que ça m'a connectée à l'enfant que j'ai pu être aussi. Il y a eu cette part-là, ce côté... En fait, je saurais même pas comment l'expliquer, mais je pense que ça, il y a eu un bout où ça a réparé des choses chez moi, justement, des choses dont j'ai pu souffrir dans l'enfance, justement, un peu de ce que je disais avant, dans le fait de pas nommer la maladie parentale et ce genre de choses. Ça a créé un ancrage aussi, quelque chose où, elle me donne cette force d'avancer encore plus, cet élan. Donc, il y a une sorte de solidité qui s'est créée. Qui s'est amenée chez moi. Je me sens plus en confiance. Elle représente tout, énormément pour nous actuellement et pour toujours. Donc ouais, je pense que c'est encore assez dur de répondre pour moi à cette question alors qu'on est encore aux prémices de cette maternité. Peut-être avec le recul, j'arriverai plus à y répondre. Mais je pense que ce que je peux dire, c'est qu'elle m'a connectée à la douceur, vraiment. Cette part de moi que je ne connaissais pas, de pouvoir être douce vraiment avec ce petit être, et de pouvoir être créative aussi, d'amener de la créativité, de justement pouvoir jouer avec, lui raconter plein de choses, rire, parce qu'elle rit déjà à 2 mois et demi, mais à plus pouvoir, elle est hyper communicative. Et du coup, et aussi, comme je te disais avant, cette connexion à l'instant présent, j'ai beau méditer depuis 7 ans, il n'y a rien qui me connecte plus à cet instant présent que sa présence à elle.
Est-ce que ton handicap, ça t'a aussi reconnecté à ton corps, parce que tu t'as fait tout cet accouchement physiologique, tu parlais d'avoir fait une retraite aussi silencieuse. Est-ce que ça a transformé aussi ta connexion à ton corps?
Ouais, complètement. En fait, j'ai toute ma vie, j'étais dans ma tête tout le temps, toujours dans le cérébral. Alors le corps, oui, je faisais du sport, mais pour faire du sport, mais c'était pas une connexion au corps. C'était juste répondre à un dictat et c'est tout. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire du yoga. Bon, c'était même avant la maladie, mais disons que la maladie a vraiment permis à ce que je fasse du yoga quotidiennement, à être dans de la encore plus de méditation, de respiration, à revenir à mes sensations et à aimer ce corps au final, même dans ses difficultés, et à l'accompagner dans ce qu'il traverse. Et ça a été évidemment tout un chemin, parce qu'au départ, quand on tombe malade, on le déteste, son corps, qui est défaillant. On a juste envie qu'il retrouve sa norme, entre guillemets. Et donc ça a été vraiment un apprentissage de connexion à lui, à ses sensations, et d'être hyper à l'écoute de ce qu'il vit, pour pouvoir aussi faire en sorte de pas empirer les choses.
Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner à une femme qui a un handicap invisible et qui pourrait avoir des doutes aussi sur une future maternité ?
Je dirais une des premières choses, c'est vraiment d'être entourée. Et quelque part, qu'importe par qui c'est, tant que c'est quelqu'un avec qui on a extrêmement confiance et qui est proche, mais ça peut être ses propres parents, ça peut être son conjoint, ça peut être des amis très présents, enfin... Vraiment de sentir qu'on est entouré et pas seul, parce qu'il peut y avoir des phases où on se sent quand même isolé ou dans un sentiment de solitude, aussi quand ça s'accumule avec la fatigue. Donc ou par exemple faire appel justement à une association comme j'ai fait pour avoir un soutien, d'oser dire, oser nommer comme j'ai nommé à mon père, mais là j'ai besoin que tu reviennes du Portugal. J'aurais jamais pensé faire un appel à l'aide pareil. Et en fait, quelque part, je me dis, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai surtout fait aussi pour ma fille, pour la protéger de mon état, enfin, toutes ces choses-là. Donc, d'être entourée, ça peut être par une doula, les sages-femmes, la gynécologue, j'en sais rien, mais vraiment sentir qu'il y a des gens autour de soi chez qui on peut se déposer et ce qu'on peut, où on peut sentir qu'on est en confiance et dire ce qui traverse et dire ce qui se traverse. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Évidemment, d'avoir garder le plus possible son hygiène de vie qu'on connaît par rapport à la maladie. Donc, est-ce que c'est d'essayer de dormir au maximum ? Je sais que ça paraît complètement paradoxal quand on vient d'être parent, parce que le sommeil est complètement fucked up. Mais c'est justement, est-ce que je peux demander à quelqu'un de venir à la maison et moi faire une sieste ? Est-ce que on peut se relayer avec mon conjoint, ma conjointe ? Enfin, vraiment ces aspects-là. Est-ce que j'ai besoin de sessions justement de faire des exercices ? Donc, essayer de garder un minimum, même un strict minimum, de sa routine qui fait du bien et de son hygiène de vie, et de ces temps des temps de pause quand même, parce que c'est vraiment intense quand même d'avoir un bébé, et d'essayer de voir si on peut continuer un peu ses soins à côté, ses soins qui soulagent. Donc je dirais qu'il y a ces choses-là qui sont quand même importantes, de pas naviguer seule en fait.
Ouais. Il y a des aides de l'État. Alors toi, tu es en Suisse, mais est-ce que tu as des aides par rapport à ton handicap ?
Ouais, moi j'ai une reconnaissance, donc ça s'appelle l'allocation invalidité. Donc j'ai été considérée comme invalide, inapte au travail, et du coup j'ai une aide de l'État par rapport à ça. Il y en a aussi en France, je crois qu'en France c'est au travers de la MDPH, après je sais pas en Belgique ou comme ça, mais en tout cas il y a eu cette reconnaissance avec une aide. Alors évidemment elle est moindre par rapport au salaire que j'avais avant, donc ça peut mettre dans une sorte de précarité quand même. Donc ça, on a dû repenser évidemment la vie complètement différemment avec peu d'argent, mais ça se passe quand même. Et je trouve qu'il y a une grande solidarité autour des enfants en fait et des bébés. Et puis, nous, on n'a rien acheté à Billy jusqu'à aujourd'hui,
ah oui,
si ce n'est une armoire et des couches culottes. C'est tout. En fait, on a vraiment absolument tout récupéré de d'autres personnes. Je veux dire, même les tututes, on nous en a donné. Enfin, vraiment, on n'a rien acheté d'autre. Et on se dit, alors évidemment, à terme, un enfant, ça peut coûter. Mais pour l'instant, bah, elle nous a pas encore vraiment coûté quelque chose en termes financiers. Donc, je le précise parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui sont en situation de maladie et de handicap sont quand même très précarisées. Soit parce qu'elles sont pas reconnues par l'État, ou même si elles le sont, c'est quand même des revenus... des rentes qui sont très basses.
Ouais. Ce sera une des missions de ton association, justement, de faire entendre la voix des handicapés invisibles auprès des politiciens, des politiques.
Ouais, totalement.
Ouais.
Totalement. Et puis, en fait, il y aura aussi des ressources sur le site, des permanences juridiques, des avocats, pour aider aussi à avancer au niveau des dossiers pour une reconnaissance au travers de la maladie, ouais. Mmh.
Eh bien, on va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Oui.
C'est quoi pour toi être une maman genevoise ?
Alors, être une maman genevoise, c'est être une maman qui n'a plus envie de vivre à Genève.
Ah ouais ? Pourquoi ? Ouais.
Écoute, ça devient trop la ville, ça devient trop dense. Et en fait, notre seule envie, c'est de se lever le matin et de mettre les pieds dans un jardin et dans la rosée du matin. Et de pas être en ville au final. C'est voilà. Donc être une maman genevoise, c'est ne plus vouloir être une maman genevoise.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Genève?
Oula, mais là tu me poses la plus grande des colles parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de ces endroits kids friendly. C'est ça vraiment ça m'a marqué ça. J'en ai pas vu. Alors après je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup justement du fait des symptômes, mais je me souviens que quand j'ai fait le vernissage de mon livre alors que j'avais pas encore d'enfant, je l'ai fait dans un endroit qui s'appelle la Jonquille que j'adore, qui a été ouvert par un de mes super amis. Et en fait, j'avais proposé pendant ce vernissage qu'il y ait des jeux pour enfants et un espace pour enfants. Et du coup, ça a amené énormément de personnes, mais des personnes que j'aurais jamais pensé qu'ils viennent, des anciens collègues, des potes pas vus depuis 15 ans, des choses comme ça. Et en fait, j'ai su qu'ils étaient venus parce que il y avait le moyen de venir avec ses enfants. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, on est tellement à en avoir. Comment c'est possible encore que là aussi, il y a un manque d'inclusion. Il y a quelque chose qui me dépasse.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
C'est vrai que j'aurais dû m'y préparer à ces questions parce que je le connais par cœur, ton podcast, mais je m'y suis pas du tout préparée. Je suis venue comme un cheveu sous la soupe. Mes projets rien que pour moi et en famille. Je vais commencer par en famille et justement, c'est comme je disais, je pense que c'est de trouver un lieu ressource pour vivre auprès de la nature. Vraiment, je le ressens très 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 fort. Et mes projets pour moi, bonne question. C'est vrai qu'on les met vraiment en parenthèse hein, quand on devient maman. C'est d'écrire un livre pour adultes. Quand je dis ça, c'est pas un livre érotique. C'est simplement en opposition avec les livres pour enfants. Why not, clairement. Mais c'est en opposition avec les livres pour enfants que j'ai déjà écrits.
Sur la thématique du handicap invisible ?
C'est ça. Mais qui soit vraiment un outil et un témoignage pour d'autres personnes qui vivent les mêmes situations.
Merci beaucoup, Tamara.
Merci à toi, Shane.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès lundi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !